Bonjour et bienvenue dans Sexo Time, un temps pour parler de sexualité. Il y a quelques temps, j'ai acheté un livre qui s'appelle Sexo Queer et j'ai eu très envie de vous en parler. Ce livre a été coécrit par Morgane Beauvais et Gwen Ekal. Et figurez-vous que j'ai eu la chance de croiser Gwen Ekal qui habite Montpellier. Elle m'a reçue chez elle pour parler de ce livre. Alors, plutôt que de faire un monologue, je vous propose d'écouter l'interview qu'elle a bien voulu m'accorder. Bonjour Gwen, merci de m'accueillir chez toi pour parler du livre Sexo Queer que tu as coécrit avec Morgane Beauvais.
Ben merci Corinne pour cette invitation, je suis très contente d'être ici et de représenter aussi Morgane du coup, qui ne peut pas être là mais qui est toujours très ravie de parler de notre livre, donc merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Donc vous êtes toutes les deux sexologues et sexothérapeutes, comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi ?
Alors déjà, avec Morgane, on s'est rencontrés à distance lorsque j'étais à La Réunion. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait des sujets communs, un peu des passions communes, toutes les questions autour des sujets queer, mais aussi tous les sujets qui ne sont pas abordés dans la sexualité, comme la précarité, par exemple. Et donc, nous est venue l'idée de faire un peu un guide, mais un guide pour le grand public, pour justement parler un peu des sexualités, mais j'ai envie de dire de l'intimité et des sexualités qui sont peu abordées de manière générale dans la sexologie en France.
D'accord. Et du coup, puisque tu en parles, comment tu peux définir le mot queer ?
Alors c'est une très bonne question, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent. Déjà, pour revenir un peu à l'origine, le mot queer, il voulait dire finalement bizarre, et donc c'était pour définir, c'était une insulte envers les personnes qui n'étaient pas dans les codes, on va dire, hétéronormés. Et du coup, le mot queer a été réutilisé, mais pour que les personnes puissent porter leur identité et justement être fières pour justement aller à l'encontre de ce stigmate. Et donc, queer, ça va correspondre, c'est une grande étiquette qui va correspondre à toutes les formes d'identité et de genre en dehors des normes binaires, donc en dehors des hommes-femmes cis, et aussi autour des différentes orientations que l'on peut trouver, donc tout le spectre LGBT, QIA+, etc. Dans le mot queer, il y a aussi une dimension militante, c'est-à-dire que les personnes militent pour leur représentation, pour être visibles, pour les droits aussi, et il y a aussi une dimension intersectionnelle. Donc, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui veut penser, réfléchir pour se battre contre les formes d'oppression qui sont systémiques dans notre société. Donc voilà, le mot queer, c'est une grande étiquette, on va dire, qui va balayer différents sujets. Après, il y a des personnes qui sont LGBTQIA+, qui ne se revendiquent pas comme queer, c'est pas obligatoire. Mais en tout cas, voilà, on a voulu l'appeler, c'est plutôt la maison d'édition qui a voulu l'appeler sexo queer, même si nous, on aurait aimé parler peut-être plus en termes d'inclusivité, parce qu'on pense que le livre ne s'adresse pas qu'aux personnes queer. Mais en tout cas, l'idée de base, c'était quand même de partir de la question des sujets queer, mais aussi avec, encore une fois, cette vision militante et intersectionnelle, eh bien, ça a été aussi d'aller vers des autres sujets en lien, comme par exemple le handicap, la précarité, etc.
D'accord, ok. Donc en fait, c'est un grand groupe qui permet de définir quelque chose qui n'est pas hétéronormé, en fait. En gros, on pourrait dire que c'est queer, mais peut-être qu'on va utiliser le mot queer pour quelque chose de plus politique, de plus engagé.
C'est ça, complètement. C'est vraiment cette idée, il y a vraiment une idée d'engagement et de militantisme et de sortir des normes binaires, que ce soit en termes de genre, mais aussi en termes de sexualité et ou de relations, et aussi avec une idée de fluidité. Donc finalement, c'est aussi une étiquette qui peut être en mouvement. Voilà, c'est pas figé sur une définition très stricte.
D'accord, ok. Super, merci pour cette explication. C'est pas toujours évident. Alors, moi, avant de parler du contenu du livre, j'aurais voulu parler des petits plus que j'avais trouvé très précieux dans votre livre. Par exemple, on y trouve des définitions, des schémas, des témoignages et aussi la rubrique « Pour aller plus loin » et « Parlons de vous ». Peux-tu m'en dire un peu plus ?
Alors, c'est vrai qu'on avait envie, on avait à cœur en tout cas que cet ouvrage, il puisse être qu'une porte d'entrée, finalement, vers autre chose. Donc, pour faire un peu le lien entre tout, déjà on s'est dit on a besoin d'un glossaire, parce que c'est vrai que dès qu'on parle de queer ou LGBT, la première chose que les personnes nous disent c'est « moi je comprends rien,
oui,
je comprends rien, je sais pas ce que ça veut dire, etc. » Donc Pour ça, il fallait qu'on ait un glossaire, des définitions, mais aussi des schémas. On sait aussi que les personnes vont mieux retenir une information si elles le lisent. S'il y a des schémas, ça va des fois permettre de clarifier la pensée, etc. Et puis, on voulait aussi faire à la fois intervenir des personnes concernées, parce qu'on ne peut pas parler au nom de tous et toutes. Donc, on l'a fait relire, ce livre, par beaucoup, beaucoup de personnes concernées, mais aussi qu'il y ait des témoignages, parce qu'on sait que les témoignages, ça va souvent permettre à des lecteurs ou lectrices de se reconnaître à travers les personnes qui parlent, mais aussi d'avoir des parlons de vous. C'est un peu l'idée de venir un peu happer le lecteur pour que chacun, chacune puisse réfléchir à soi, parce que l'idée aussi de ce livre, c'est que chacun, chacune réfléchisse à sa norme à soi, et donc qu'est-ce que chaque personne a envie. Et donc c'était vraiment cette idée de venir aussi questionner le lecteur, et ensuite la rubrique, pour aller plus loin, c'est vraiment, encore une fois, cette idée de faire une porte d'entrée, et l'idée, c'est qu'ensuite, les personnes puissent, après, poursuivre leur cheminement à partir de cette lecture.
Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça intéressant, dans le sens où, effectivement, vous mettez des liens sur des associations, des sites web, ou bien aussi sur des podcasts, etc., pour qu'effectivement les gens aillent plus loin. Et les questionnements aussi, j'ai trouvé ça très intéressant de se dire, ah ben tiens, et moi, où j'en suis là-dedans, etc. Voilà, ouais. J'ai trouvé ça très très chouette.
Merci.
Dans le chapitre 2 et 3, vous évoquez donc la sexualité queer l'intimité sexuelle des personnes LGBTQIA+. Que va-t-on trouver dans ces chapitres ?
Alors pour nous, ce chapitre était très important de parler des sexualités et intimités des personnes LGBTQIA+. Déjà, comme je disais souvent, les personnes ne savent pas forcément de quoi il s'agit, donc oui. On a dû expliquer un peu avant. Il y avait deux objectifs. Déjà, il y avait un premier, c'était de reparler aussi d'anatomie, mais sans parler des normes corporelles binaires. Mmh. Et donc ça va avec toute la case des personnes qui sont intersexes, et donc toute la question de l'intersexuation, mais aussi la question des transidentités. Donc par exemple, de parler pas que d'un clitoris et d'un phallus, mais aussi de parler d'un diclite. Donc le diclite, c'est un peu comme un clitoris lorsque, par exemple pour les personnes trans, s'ils prennent des hormones, ça va créer entre guillemets, je mets des guillemets, parce que c'est pas une création, mais la forme va changer, ça va donner un diclite. Mais pour les personnes intersexuées, donc l'intersexuation, c'est une variation naturelle du corps, en fait, qui fait qu'il y a des personnes qui vont avoir des caractéristiques biologiques et ou hormonales et ou secondaires, la liste est un peu longue, en dehors des normes, il y a des personnes qui n'ont pas franchement un clitoris, mais qui vont avoir un diclite, etc.
Ouais, donc, si on le dit autrement, c'est peut-être un clitoris un peu plus gros que
c'est
la
peu,
norme.
Un clitoris hypertrophié, ouais. Donc plus long, et donc du coup, qui est un peu entre guillemets, entre le phallus, le petit phallus, et le clitoris. Et donc, il y avait aussi cette idée de montrer déjà des corporalités en dehors des normes.
Oui, et là, en fait, quand tu parles de schéma de corps, en fait, il y a des dessins, en fait, il n'y a pas de photos dessus.
Oui.
Donc pour que ce soit pas trop agressif, je dirais. Donc effectivement, c'est des dessins.
Oui, c'est des dessins et des schémas clairs. Il y a aussi la phalloplastie, la vaginoplastie qui sont représentées. Et donc après, c'était de parler un peu entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, des spécificités des personnes lesbiennes, personnes gays, trans, etc. Je mets des gros guillemets, pourquoi ? Parce que c'est un exercice toujours délicat, parce qu'on ne peut pas réduire des personnes lesbiennes à une sexualité, etc. Mmh. Mais on a essayé, en tout cas, aussi en partant de notre savoir, de notre clinique, de montrer qu'est-ce que vivent généralement les personnes lesbiennes, qu'est-ce qu'elles entendent le plus, quelles sont les idées reçues, pareil pour les personnes gays, etc.
Les clichés, en fait.
Les clichés.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas concentré sur la partie vraiment génitale, mais vraiment sur la pensée qui est autour, et justement d'où l'intérêt des témoignages, parce qu'au moins, on est dans le concret. À la question de ce livre, ce que j'ai compris, c'est qu'il permet surtout de se questionner sur des questions de sa propre sexualité. Et est-ce que c'était aussi l'objectif ? Parce que est-ce que l'objectif, c'était de parler que des personnes queer ou en fait un peu tout le monde ?
Effectivement, au départ, on avait eu l'idée donc d'aller spécifiquement sur les sujets queer. Et finalement, donc, comme je le disais, le titre a été choisi tout au début. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure, comme en plus on a cette vision très intersectionnelle, qu'à la fin, le résultat de ce livre, en fait, il peut parler à tout le monde. parce que il y a vraiment cette idée que les lectrices puissent être touchées et se questionner sur leur propre vie intime et sexuelle. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux? De quoi ils ont besoin? Et d'ailleurs, le livre commence par un premier chapitre qui parle de trouver sa norme à soi. Donc vraiment, c'était vraiment l'idée du livre, c'est ça. Donc en vrai, c'est un livre qui est ouvert à tous et à toutes, même si, eh bien, le titre, du coup, peut...
peut porter préjudice,
voilà,
en fait.
Peut porter un peu préjudice.
D'accord, ok. Donc, mais voilà. C'est aussi pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que justement, c'était pas coincé dans la sexualité queer. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aussi avec les auditeurs. Moi, quand je reçois des personnes dans mon cabinet, quand je reçois des couples, je leur demande souvent quel est leur contrat de départ. Et quand je dis de contrat de départ, je leur demande quelle relation de couple ils veulent. En général, les personnes sont très étonnées que je pose cette question, parce que pour eux, il n'y a pas de question en fait, c'est une évidence. Et quand même, j'ai lu dans le chapitre qui s'appelle « L'amour et les unions » que vous posiez aussi la question, en d'autres termes bien sûr, lorsque vous parlez de différentes formes d'union. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Ça, c'est un sujet qui est fréquent d'ailleurs en sexologie lorsqu'on accompagne des personnes. C'est-à-dire que de base, les personnes, si on les reçoit ou si on rencontre des gens dans la rue, on va se dire que de base, ils sont hétéronormatifs, c'est-à-dire hétérosexuels et monogames. Ils ont un seul partenaire ou une seule partenaire. Là, dans le livre, on a voulu essayer d'ouvrir justement cette vision-là, en rappelant qu'en fait, l'intimité sexuelle, l'intimité tout court, mais aussi l'amour, l'affection, eh bien, il y a plein de manières de le vivre, il y a plein de formes d'union qui sont possibles, et que là encore, ça peut être fluide, et on peut créer sa manière de vivre ça ou ses relations telles que on le désire. Là encore, c'est que les personnes puissent voir ce qui existe, pour que les personnes puissent s'interroger sur, en fait, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez dans votre... intimité, dans votre désir, qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec une seule, plusieurs personnes, de quelle manière, de quelle façon. L'idée, c'était de montrer qu'il n'y a pas que l'hétéronormativité, donc être hétéro en couple monogame qui existe. En fait, il y a un panel qui est très large de vie relationnelle et intime. On peut avoir de l'intimité ou des formes d'union avec ou sans sexualité, avec plusieurs ou un seul partenaire. Enfin, tout est possible, en fait.
Oui, et puis en fait, on peut se dire aussi que quand on est en couple, ne serait-ce que hétéronormé, on peut aussi quand même ouvrir sur d'autres choses dans sa sexualité. Et moi, les personnes que j'ai en cabinet, en fait, souvent ne se sont jamais posé la question. Et en fait, les problématiques se retrouvent après, en milieu ou en fin de parcours de la vie de couple, parce que dans notre société, en fait, on ne se pose pas la question sur la sexualité. Ouais. Tu es d'accord avec ça ?
Complètement. Déjà, on ne se pose pas cette question, c'est tabou aussi. Oui. Et puis, encore une fois, on est dans une société où on nous a appris que si on est amoureux, on aime une seule personne avec qui on fait de la sexualité avec une seule personne. Parce que amour et sexe sont comme associés. Là, on voit bien que dans le livre, que si on parle des personnes asexuelles, eh bien, on peut être amoureux sans avoir du sexe avec une personne. C'est complètement possible et ce n'est pas une maladie. Mais comme les personnes ont été conditionnées pour se dire « si j'aime quelqu'un, je désire qu'une seule personne et je fais du sexe avec une seule personne », et il y a aussi la vision de, c'est ce que Jean-Claude Kaufmann appelle dans les fables, c'est le désir doit être spontané, c'est-à-dire qu'on doit forcément avoir du désir pour l'un ou l'autre, on doit aussi avoir le même appétit sexuel, donc là dès qu'on touche à toutes les divergences de désir, ça va pas, aussi on doit avoir une sexualité épanouie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui vont s'inquiéter dès lors que finalement ça va pas, soit ils vont pas oser le dire parce que en fait un couple bien c'est un couple qui soi-disant, je mets des guillemets, a une vie sexuelle épanouie, alors qu'en réalité eh bien on sait que c'est tout à fait normal eh bien de pas avoir envie en même temps, de pas avoir les mêmes désirs, de pas avoir les mêmes envies, et puis aussi de pas être raccord, d'avoir des divergences, c'est complètement ok. Enfin, dans la vraie vie, même en termes, je sais pas, d'alimentation, on n'est pas raccord avec notre partenaire et on en a fait un peu un but ultime avec la sexualité, ce qui fait que les couples, pour eux, ça devient tabou, ils osent pas en parler, alors même que, par exemple, là, on parle dans le livre de non-exclusivité, par exemple, sexuelle et ou affective. On sait qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont infidèles au cours de histoire de couple. Mais là aussi, c'est tabou parce qu'on a fait de la fidélité comme si aller voir... D'ailleurs, les personnes disent voir ailleurs.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est-à-dire ne pas être avec son partenaire et faire du sexe avec une autre personne, c'est lui être infidèle. Alors qu'en fait, dans la non-exclusivité, on voit bien qu'il y a plein de gens qui disent « Mais moi, je suis fidèle à mon partenaire. Je suis mariée. Même certains disent « J'ai des enfants avec lui », etc. » Mais ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai un autre amoureux, une autre amoureuse. Et c'est ça qui me permet d'équilibrer ma vie, de me sentir bien. Donc les personnes ne sont pas infidèles au sens de trahir. Elles ne trahissent pas l'autre. C'est possible, ça se travaille. Par
oui,
contre,
ça se discute, ça se négocie.
Il faut du temps.
Oui.
Parce que encore une fois, on n'a pas été éduqués.
C'est ça. Il faut se déconstruire aussi dans ces schémas de croyances sur la vie de couple et la sexualité.
Ouais, ça demande un peu de restructuration cognitive, on va dire, pour accepter ça, ne pas culpabiliser et puis ne pas se sentir anormal, entre guillemets, parce que ça aussi, c'est très dur.
Bien sûr. J'ai découvert aussi dans ton livre un mot que j'ai trouvé très chouette parce que il déstructurait un autre mot qui est mis à la place, c'est le mot autosexualité. Et dans ce mot, j'entends masturbation qui peut être un mot un peu vilain, pas très agréable, mais l'autosexualité, c'est ça, mais pas que. Est-ce que tu peux dire un peu plus ?
Oui. Alors c'est vrai que j'aime bien parler souvent à mes patients et mes patientes. Quel est leur rapport à leur autosexualité ? Parce que finalement, on est dans une société où c'est assez binaire. Là encore, c'est soit on se masturbe, en fait, donc seul. Parce que pareil, la masturbation à deux, souvent, c'est un peu touchy. Il y a des personnes...
C'est voilà, ça, c'est... ça se fait pas.
Ça se fait pas, etc. Donc soit on se masturbe, ou soit on a de la sexualité. Mais si on a de la sexualité, c'est à deux. Il y a vraiment cette idée que si on est seul, donc ça donne même un côté misérabiliste à la masturbation, parce que c'est un peu triste, c'est tout seul, on fait ça.
Parce qu'on n'a rien d'autre.
On n'a rien d'autre. Ouais. Et donc, soit on n'est pas heureux et on se masturbe, ou soit on est heureux et on fait du sexe à deux. Et ce que je trouve horrible comme vision, hyper dure en fait. Et je pense que, enfin, on pense avec Morgane en tout cas, que c'est hyper important de réfléchir à l'autosexualité. Donc, c'est plutôt qu'elle. Comment on entretient son érotisme à soi aussi, sa sexualité à soi, sans réfléchir aux autres. Parce que finalement, eh bien, l'autosexualité, ça peut se vivre par plein de choses. La manière de ressentir du plaisir, de se connecter à ses sensations, etc. Mais là encore, en partant de l'idée de si chacun, chacune arrive à vivre son autosexualité, c'est-à-dire comment je me nourris individuellement vis-à-vis de mon intimité sexuelle, eh bien, ensuite, on pourra voir comment on se peut connecter aux autres. Et puis aussi, ce qui nous semble important, c'est aussi d'embellir un peu la vision des moments intimes que l'on peut avoir avec soi. Des fois, je propose des moments à mes patients d'autosexualité où je leur dis, mais là, vous essayez de vous faire l'amour à vous. C'est pas du tout pareil de se faire l'amour à soi que de se dire, je vais me masturber. Et souvent, les patients après me disent, ah, mais c'était super, en fait, j'ai jamais pris une heure pour
moi.
Faire comme si je me faisais un date avec moi-même, pour mettre une musique, une ambiance, est-ce qu'il fait chaud, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait plaisir. Non, souvent, on est vraiment dans ce rapport un peu impulsif à la masturbation.
Oui, puis c'est intéressant aussi parce que, par exemple, avec l'âge, des fois, on a des problèmes avec son corps, le corps, il change, le corps, il va être en mouvement et puis on va pas avoir les mêmes sensations. Donc, c'est peut-être aussi intéressant de se reconnecter à toutes ces parties-là quand on devient âgé. Et en fait, même, tu en parles à un moment aussi, je pense que c'est un rapport aussi avec les personnes qui sont en situation de handicap.
Ben, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi cette idée que, en fait, repenser son rapport de soi à soi, c'est penser à comment on se sent, j'ai envie de dire, dans son enveloppe corporelle, vraiment au sens d'enveloppe. Parce que forcément, que ce soit avec l'âge, la maladie, le handicap, eh bien, l'enveloppe corporelle, elle change. Et on est quand même dans une société où le jeunisme et le validisme est très, très mis en avant.
Oui,
et donc, c'est hyper compliqué de réussir à se sentir... beau ou belle, désirable, bien dans son corps et bien dans sa tête. Alors, mais donc, du coup, dans cette idée aussi de revenir à soi et de voir comment on peut se connecter à son corps aussi, se connecter à ses émotions, parce que voilà, notre corps, il est empreint aussi d'histoire. Donc, la maladie, le handicap, l'âge qui avance, tout ça, ça fait que le rapport au corps, il change. Et donc, je pense que trop souvent, on essaye de se divertir au sens propre du terme, c'est-à-dire de se détourner de soi pour oublier des situations comme ça où les personnes elles vont se sentir du coup réduites à ce qu'elles sont. Moi j'ai eu beaucoup de patients patientes qui me disaient, moi je suis qu'une personne handicapée, donc je peux pas être désirable, désirée, c'est impossible. Donc il y a aussi tout ce travail qui est difficile d'accepter les choses, d'essayer de pas se détourner, parce que la société aussi nous renvoie un miroir hyper dur. Et on voulait aussi d'essayer de donner un peu des pistes de réflexion, d'essayer d'aiguiller sur ces sujets-là, parce que on croit en la diversité de chacun et de chacune, et en l'importance que tout le monde a sa place, quelle que soit sa situation, pour se sentir bien, en fait.
Oui, et là, l'idée, c'est que les personnes, déjà, elles se tournent vers elles et pour s'accepter elles-mêmes dans leur corps, dans leur désir, dans leur plaisir, avant de faire un échange avec une autre personne.
C'est ça, complètement.
Bon, écoute, je pense qu'on a fait une bonne partie du tour de ce livre « Sex ou queer ». Il y a quand même des chapitres qu'on n'a pas abordés ou tu as abordé rapidement, c'est-à-dire sur la communication, les émotions et la précarité financière. Mais à la limite, je me dis, tu en as un petit peu parlé, mais je me dis que ça serait bien que nos auditeurs en fait, découvrent ce livre, parce qu'on ne va pas tout leur raconter. L'idée, c'est qu'ils soient curieux sur ce livre que je recommande très fortement. Donc avant de se quitter, Gwen, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, que tu aurais envie de dire en plus ?
J'ai envie de dire, je pense que ce qu'on a souvent dit avec Morgane, c'est que ce livre, dans quelques années, on pense qu'il sera dépassé, et c'est tant mieux. Mm-hmm. Ça veut dire que les choses, elles évolueront. Donc je pense que ce qui est important de dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que en fait, chacun, chacune est libre de réfléchir à ce dont il ou elle a envie, d'y réfléchir en lien avec, son état de santé, le handicap, c'est pour ça qu'on voulait en parler, parce qu'on n'en parle jamais dès qu'on
Bien
parle
sûr,
de sexologie.
C'est
son état de santé, son état mental, sa précarité, de son histoire, etc. Donc c'est ok d'y réfléchir, c'est ok de se dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je peux faire, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire aussi. Mm-hmm. Ça aussi, on le dit dans le livre, c'est normal, il faut se déculpabiliser. C'est ok aussi de vouloir se laisser tranquille, ça on le dit beaucoup. L'idée du livre, c'est pas du tout que chacun ait la meilleure vie sexuelle. Non, ça, on s'en fiche. Et ça, je le dis parce qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui qui culpabilisent.
Oui, pour avoir, pareil, toujours d'être
toujours
le meilleur.
Plus, d'être le meilleur.
Ça, je sais faire. Voilà. Moi, j'ai déjà fait ça, la liste
ça.
Exhaustive.
Et ça, nous, ce qu'on dit souvent, c'est foutez-vous la paix, laissez-vous tranquille aussi, c'est super important. Et puis, ensuite, que chacun, chacune puisse trouver sa norme à soi, s'affirmer comme il ou elle le désire, et puis pour se trouver et se sentir bien, finalement, ce qui compte pour nous, c'est ça. Donc,
de se sentir bien dans sa sexualité et dans son corps.
C'est ça, dans sa sexualité, dans son intimité, et je dis souvent avec ou sans sexualité. Parce
oui,
que finalement,
aussi, on peut.
C'est pas ça qui est le plus important, c'est de se sentir bien, donc à la fois se déculpabiliser, et puis que les choses, on espère que les choses vont continuer à évoluer. Et j'ai envie de dire aussi, s'il y a des sujets qui vous choquent, qui vous questionnent, qui vous titillez un peu, peut-être que justement, c'est que ça vaut le coup de creuser un peu plus pour voir ce qu'il y a derrière.
D'accord,
voilà.
Ok. Un grand merci à toi de m'avoir accueilli pour parler de ce super guide sur l'intimité affective et sexuelle, qui est le nom le sous-titre de ce livre. Et je vous rappelle que le titre du livre, c'est « Sexo queer ».
Merci beaucoup.
Merci,
et puis
Gwen.
Merci aussi de la part de Morgane qui est avec nous. Merci.
Avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.